Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Comme d'habitude, autour de moi, Philippe Christel et Lucien Valdès, qui ne devraient pas tarder. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Patrick.
Alors, la crise, voilà maintenant quelques années que l'on nous rabâche les oreilles avec ce mot. Une crise qui aurait été plus forte que 29, une crise dont les explications sont diverses et variées. La mondialisation, les Américains, la faillite de l'Europe, la monnaie, les déficits, la Chine, la spéculation, les traders, le FMI, les sociétés occultes, que sais-je encore.
Dominique Strauss-Kahn.
Justement, pour nous éclairer sur le sujet, nous avions pensé au président du FMI ou à notre ministre de l'économie, mais il paraît qu'ils sont pas, ils sont un peu occupés en ce moment. Donc, nous nous sommes rabattus, mais avec plaisir, de recevoir Michel Drac, un peu moins connu en ce moment dans l'actualité. Michel Drac, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
Alors, Michel Drac, pour vous présenter aux auditeurs, vous êtes essayiste et fondateur du site Scriptoblog. Vous avez été et vous êtes toujours contrôleur de gestion spécialisé dans la gestion industrielle. Et vous avez donné naissance à une maison d'édition, Le Retour aux Sources. Auteur de plusieurs essais sur l'économie et sur la crise, vous avez développé un ton très pertinent mélangeant géopolitique et économie, un regard assez singulier sur notre monde actuel et sur cette crise. Donc, avant de revenir à la crise par elle-même et ses conséquences sur le monde réel, à propos de l'explication de cette crise, il y a autant d'explications qu'il y a d'économistes. Pire, chaque école de pensée économiste, des marxistes aux libertariens, l'aurait prévu. En gros, on vous l'avait bien dit, comment expliquez-vous ce barnum d'économistes à propos de la crise ?
Je crois que ça a toujours été le barnum en matière de diagnostic formulé par les économistes. Winston Churchill disait déjà, je crois que c'était dans les années 30, donc ça ne nous rajeunit pas, quand vous demandez leur avis à trois économistes, vous avez quatre avis. Un d'un économiste de gauche, un d'un économiste de droite et deux de John Maynard Keynes. Donc, vous voyez, le barnum, ça ne date pas d'hier. Pourquoi ça a toujours été le barnum quand il s'agit de formuler des diagnostics en matière économique? Je crois qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est tout simplement qu'il est très rare que les gens puissent formuler un diagnostic lorsqu'ils sont au sein du bloc institutionnel ou lorsqu'ils appartiennent en tout cas à une mouvance importante, de façon libre. C'est-à-dire que tout diagnostic porte en germe des remèdes et on s'aperçoit qu'en général, les remèdes portés en germe dans les diagnostics d'un économiste d'une tendance donnée sont ceux qui arrangent les gens qui financent cette tendance. Bon, c'est une première raison. Et puis il y a une deuxième raison qui est que l'économie se donne pour une science dure, pour une science exacte, ce qu'elle n'est absolument pas. L'économie pourrait être définie comme une tentative vouée à l'échec de mathématiser une donne qui est fondamentalement humaine. À partir de là, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on peut produire n'importe quel chiffre pour défendre n'importe quel discours, mais on n'en est pas loin. Donc c'est le barnum, aujourd'hui comme hier. Là, aujourd'hui, le barnum s'organise en fait de façon relativement simple, d'ailleurs. C'est un barnum presque lisible. Il y a ceux qui veulent maintenir un système qui est en place sous sa forme contemporaine depuis 1971, à peu près. Et il y a diverses tendances qui veulent substituer à ce système d'autres systèmes. Mon opinion personnelle est qu'on approche du moment où un certain nombre des discours qu'on nous tient depuis 2008 vont passer à la trappe par la force des choses et que la question de savoir s'il faut ou pas sauver le dollar va bientôt être réglée d'elle-même.
Alors, dans un de vos essais, vous avez très bien analysé la crise en prenant l'exemple d'Enron. En 2001, dans la faillite de cette entreprise, il y a déjà tous les acteurs pour expliquer la future crise. JP Morgan, Merrill Lynch, NatWest. Enron, ce n'était donc pas une exception. Quel était le mécanisme et comment en est-on arrivé là?
Alors Enron, très schématiquement, c'est une illustration parfaite de ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire une tentative pour mathématiser l'humain qui débouche en fin de compte sur une paraphrénie institutionnalisée. Ce qui s'est passé avec Enron, c'est qu'on a dit au management d'une grande entreprise texane, votre objectif, c'est de faire de l'argent, point. Faites de l'argent, n'importe comment. Très vite, ces gens-là se sont aperçus que dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ce sont les fonctions d'intermédiation qui permettent de dégager les marges les plus importantes. Ils se sont donc repositionnés pour transformer en quelque sorte une entreprise dont le métier au départ était de faire de l'ingénierie pour produire de l'électricité en entreprise de courtage, entre guillemets, en électricité. Et ils ont inventé, on peut dire, quasiment une sorte de marché supposé efficient, parce que bien sûr le marché est toujours supposé efficient quand on est dans la théorie. Très vite, le système a complètement dérivé et ils se sont comportés progressivement, on peut pratiquement dire, comme des truands, des gangsters. Ils sont allés jusqu'à organiser une pénurie d'électricité en Californie pour faire monter les prix du kilowattheure jusqu'à des sommets insupportables pour les consommateurs. Et évidemment, le résultat, c'est qu'en produisant 0 kilowattheure et en vendant fort peu, ils ont réussi à faire des bénéfices très importants dans un premier temps. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le modèle économique sur lequel reposait cette entreprise de prédation n'était évidemment pas viable à moyen terme. C'est-à-dire que, dans un premier temps, effectivement, l'intermédiation permet de fabriquer de la valeur comptable. Le problème, c'est que si elle fabrique cette valeur comptable en vampirisant la production effective, il y a forcément un moment, si vous voulez, où ça coince. Quand la carte mange littéralement le territoire, la carte s'étend. Puis il y a forcément un moment où il n'y a plus du tout de territoire en dessous. Donc à ce moment-là, à force de s'étendre, la carte implose, elle se replie sur elle-même. C'est ce qui est arrivé à Enron à partir de la fin des années 90. Alors ils ont essayé de s'en sortir pendant 2 ou 3 ans en faisant ce que l'on appelle aux États-Unis de la comptabilité créative. Donc l'histoire d'Enron est très drôle parce que, je peux vous dire une chose.
Mais expliquer un peu aux auditeurs, c'est quoi
ouais. La comptabilité créative, ça consiste schématiquement, dans le cas d'Enron, à créer, je vais dire de bêtises, mais je crois que c'est plus d'un millier de special purpose vehicles, c'est-à-dire des, on va dire des filiales, des fonds, des véhicules à objet spécial, logé très souvent dans des paradis fiscaux, situés à peu près à la frontière du périmètre de consolidation du groupe. Donc on les prend ou on les prend pas, ça dépend des années. Et puis, on met dedans les dettes. Et par contre, on garde dans le périmètre de consolidation les actifs. Et encore plus fort, on va utiliser ces véhicules spéciaux gonflés par la dette pour organiser des opérations en fait de rachat intergroupe mais qui échapperont au périmètre de consolidation parce qu'ils sont situés à la frontière pour fabriquer carrément de l'actif fictif. Et dans le cas d'Enron, on peut vraiment dire que c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, je ne conteste pas mon admiration pour Monsieur Andy Fasto, le responsable comptable d'Enron. C'est un génie du mal, mais un génie, puisque ce gars-là a quand même réussi à fabriquer un chiffre d'affaires fictif d'Enron égal, si ma mémoire est bonne, je ne vais pas dire de bêtises, mais à 3 semaines ou quelque chose comme ça du PIB français. Et vous faites travailler toute la France pendant 3 semaines, vous avez fabriqué la valeur que M. Andy Fasto a fabriquée de façon purement fictive en jouant comme ça sur un millier de filiales bidons logées dans des paradis fiscaux.
Et le tout certifié par les plus grandes autorités en la matière.
Et le tout a été certifié par Arthur Andersen, qui à l'époque...
Feu Arthur Andersen,
qui à l'époque passait pour la mecque de l'audit comptable. La conclusion de l'affaire Enron, si vous voulez, c'est que si vous avez des actions d'une entreprise américaine, Ne lisez pas les documents de synthèse, ça ne sert à rien. Ne perdez pas votre temps. Simplement, vous regardez...
Lisez des comics.
Lisez des comics, c'est plus crédible déjà.
C'est bande dessinée pour nos auditeurs.
Et simplement, vous regardez si le directeur financier démissionne. Et s'il démissionne, en plus en faisant un discours pour dire qu'il est fier de son bilan, alors là, vous avez 48 heures pour revendre vos actions. Ça, c'est comme ça que ça marche.
Alors, à l'époque...
Avant qu'on change de question, un auditeur nous dit, et on va le détromper vite fait, « Monsieur Michel Drac, est-il le cinéaste qui a réalisé le pullover rouge ?» Je crois que nous pouvons lui répondre que non, ce n'est pas vous.
Non.
On ne lui avait pas posé la question. Hein. Oui. Dans l'affaire Enron, on a, en tout cas le gouvernement américain, on a voulu nous faire croire que c'était une exception. Pourtant, il y avait quand même un nombre de complices énorme dans cette histoire. Il y a eu des condamnations. Et en fin de compte, on s'aperçoit que tout le système marche un peu comme ça.
Aujourd'hui, oui, ils sont en train de refaire le trajet d'Enron, finalement. Quand vous prenez l'histoire d'Enron, vous avez une première phase de fabrication de valeur par prédation sur l'économie réelle, mais c'est une valeur qui correspond à une réalité en trésorerie. C'est ce qui se passe à l'époque où le directeur financier Jeffrey Skilling invente... une salle de marché où l'on trade, donc, entre guillemets, l'énergie, et où, pendant ce temps-là, les ingénieurs d'Enron, d'ailleurs peu nombreux, mal formés, mal encadrés, foirent à peu près tous les projets dont ils sont chargés. Ça, c'est l'Amérique, effectivement, depuis on va dire c'est l'Amérique jusqu'en 2008. C'est à peu près l'économie américaine jusqu'en 2008. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase où on n'arrive même plus en fait à faire cracher de la trésorerie en opérant une prédation sur le réel, et où là, on fabrique complètement de la valeur fictive par des manips comptables. C'est à peu près ce que M. Benjamin Bernanke fait en fait depuis 2008. Alors évidemment, il le fait à une échelle et avec des moyens qui n'ont rien à voir avec ceux de M. Fastow. Andy Fastow, qui à l'époque passait pour un génie du mal, aujourd'hui, il doit se sentir terriblement humilié. Il doit se dire, enfin, je passe pour quoi, moi ? 10 ans plus tard, Benjamin Bernanke fait la même chose.
Qui est le patron de la réserve fédérale américaine.
Oui, merci. Il faut le préciser qu'il est le patron de la réserve fédérale américaine. Fait la même chose. Alors lui, il le fait pas avec des filiales bidons dans les paradis fiscaux. Il le fait tout simplement en fabriquant du dollar, ex nihilo, en truquant un peu les comptes aussi. C'est très dur aujourd'hui d'avoir une idée précise, en fait, de ce qui se passe au niveau de la masse monétaire du dollar. La Fed ne publie plus ses chiffres depuis 2006. On sait qu'elle a du hors-bilan. Et alors, aux États-Unis, quand une entreprise vous explique qu'elle traite ses problèmes par le hors-bilan, vous sautez tout de suite par la fenêtre. Donc, quand c'est la Federal Reserve, vous imaginez...
Le hors-bilan, hein, pour essayer d'éclairer un petit peu nos auditeurs, c'est donc les opérations qui ne figurent pas dans les documents comptables traditionnels qu'on présente au public ou à son banquier, où il y a un compte de résultat, un bilan. Et donc, il y a toute une série d'opérations que l'on peut classer dans ce qu'on appelle du hors-bilan, et ce qui doit rester, je parle sous votre contrôle, qui doit rester relativement exceptionnel et répondre à un certain nombre de normes, et c'est toute l'inflation du hors-bilan qui fait que le hors-bilan étant par définition la partie non émergée, immergée de l'iceberg, on ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Alors, pour en terminer avec...
Michel Drac, allez-y.
Votre question. Donc, Bernanke, le patron de la Fed, fabrique du dollar ex nihilo, alors il n'a pas besoin d'avoir des filiales bidons dans des paradis fiscaux, puisqu'il a carrément la planche à billets sous la main, en réalité. Et il compte tout simplement pour que ce dollar fabriqué ex nihilo prenne de la valeur sur le pouvoir d'intimidation des États-Unis d'Amérique et de l'armée des États-Unis d'Amérique, de façon à ce que les marchés des matières premières et des énergies continuent à fonctionner en dollars pour que ce dollar imprimé ex nihilo continue à avoir une valeur qui serait tout simplement sa valeur en équivalent pétrole.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, aux Chroniques de la Vieille Europe, et nous recevons Michel Drac pour nous parler de la crise. Alors, Au moment où intervient la crise des subprimes, tout le monde nous explique et tout le monde comprend, sans être passé par la fac de Dauphine, que ces crédits sont pourris. Donc les Américains étaient au courant, Alan Greenspan en tête. En conclusion, c'est une volonté de leur part. Est-ce qu'on n'a pas à faire une mise en scène dans cette histoire ?
Alors, je crois que ça dépend en fait des acteurs. D'abord, je ne peux pas répondre de façon absolue à votre question, c'est-à-dire que bon, ça que Greenspan et Bernanke aient su ce qui se passait autour des subprimes, c'est évident. Quand on descend les taux d'intérêt pratiquement, en termes de taux d'intérêt réel, ramenés à l'inflation réelle, à plusieurs points en négatif, on sait très bien que on sort de toute orthodoxie financière. Quand en plus on a fait exploser toute la régulation, toute la réglementation qui permettait d'encadrer l'activité de prêt aux particuliers et que simultanément on a fait tomber la muraille qui était édifiée entre les banques d'affaires et les banques de dépôt, les banques de crédit aux États-Unis, avec une loi qui datait de Roosevelt, qui s'appelait le Glass-Steagall, qui a été abolie juste avant qu'on lance la mécanique des subprimes. On sait très bien où on va. Je veux dire, il est impossible, ça c'est sûr, il est impossible que Greenspan et Bernanke n'aient pas vu ce qui allait se passer. C'est impossible. En revanche, la question, c'est pourquoi l'ont-ils fait ? Alors là, je ne peux pas répondre de façon absolue. Je vous donne mon sentiment.
Oui, allez-y.
D'autres personnes peuvent avoir un autre sentiment. Moi, je crois que c'est une combinaison entre un système où l'on gère quand même beaucoup des intérêts de court terme et où, dans une certaine mesure, les acteurs sont dupes des biais qu'ils introduisent eux-mêmes dans les mesures. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'on peut voir avec la personne qui a le plus développé concrètement les subprimes, qui a vendu en quelque sorte les subprimes aux Américains. Un monsieur qui était le président de Countrywide, si ma mémoire est bonne, dont j'ai oublié le nom, son prénom est Angelo, mais j'ai oublié son nom de famille, peu importe. Et ce monsieur, qui est un personnage d'ailleurs assez extraordinaire, vous voyez sa prestation de serment à son procès, on dirait qu'il sort tout droit de la série Les Sopranos, enfin c'est extraordinaire, c'est la mafia vous parle, la vraie, hein, évidemment. Lui, manifestement, on lui a jeté un os en lui disant, voilà, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup d'argent, là, très vite et sans réfléchir. Donc ça, c'est un acteur qui est dans ce jeu-là. Après, il y a d'autres acteurs qui sont certainement dans d'autres jeux plus à un plus haut niveau. Ce sont les grandes banques d'affaires, Goldman Sachs en particulier, mais pas seulement, JP Morgan aussi. Alors là, on a des gens qui probablement sont plus dans une stratégie de conquête du pouvoir financier. Et il faut pas oublier que cette histoire de subprimes, ces années folles finalement, qui vont de 2001 et 2008, ça s'accompagne d'un mouvement de concentration très significatif au niveau du pouvoir financier à l'intérieur de l'anglosphère. Il peut y avoir aussi là des enjeux de pouvoir presque indécodables pour des gens comme nous entre les grands prédateurs bancaires internationaux.
Mais avec un jeu qui n'est pas sans risque, puisque Lehman Brothers, qui a participé à la bagarre, s'est arrêté en cours de route. Ouais. Et en fait, c'est ça ce qui interroge, y compris aujourd'hui, c'est quel sentiment avoir sur le degré de maîtrise du système par les acteurs eux-mêmes. Je suis assez sensible à ce que vous dites, à savoir qu'un certain nombre d'acteurs sont dupes des biais qu'ils introduisent dans le système. Si je reviens à la situation actuelle et qu'on regarde une actualité tout à fait récente, notamment avec la multiplication des plans de sauvetage européens, Grèce, Portugal, Irlande, Grèce de nouveau. Et probablement demain, Irlande de nouveau, Portugal de nouveau, et l'Espagne peut-être. C'est-à-dire qu'il y a... ce qui est impressionnant, c'est l'incapacité à prévoir. Et il faut relire les commentaires à l'issue du premier plan de sauvetage de la Grèce, arraché de haute lutte aux Allemands d'Angela Merkel pour un certain nombre de raisons, parce que les pays du Nord ne veulent pas payer pour les pays du Sud. Bref, on finit par se mettre d'accord. On nous annonce d'ailleurs que c'est ça, un des principaux bénéfices de l'aura de Dominique Strauss-Kahn. Passons. Et puis on se rend compte 4 mois plus tard qu'il faut un nouveau plan et pas des moindres puisqu'on reparle de dizaines de milliards d'euros. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le golem échappe à son créateur? Est-ce que comment qui maîtrise quoi dans cette affaire?
Ben, vous donnez quelques chiffres, Michel Drac, vous dites que d'ici 2011, on aura détruit entre 50 000 et 60 000 milliards. On a l'impression presque d'une perte virtuelle. J'ai une question naïve. Cet argent, il existe-t-il?
Alors, en fait,
il y a deux questions là. Hein.
Oui.
Je vais répondre aux deux questions l'une après l'autre.
D'accord. Parfait.
Quelques mois, je sens les choses. Je pense qu'il y a une véritable perte de contrôle maintenant sur les enjeux géostratégiques. Là, on voit très bien depuis quelques mois qu'on approche des échéances décisives. Le modèle économique de la mondialisation telle qu'elle s'est déployée depuis 20 ans n'est pas viable. C'est absurde, on ne peut pas avoir éternellement comme ça un pays qui s'endette indéfiniment pour financer une croissance, assez malsaine. Pendant ce temps-là, une Asie émergente qui connaît des taux de croissance à 10% par an, avec des taux d'investissement de 50% et plus. Ça, c'est un modèle qui n'a pas de sens. Le couple Chine-Amérique ils ont construit ensemble un modèle qui ne peut pas durer. Ça, c'est évident. On voit bien que ça va craquer et on voit bien en fait que des deux côtés, ils doivent être assez paniqués par ce qui se passe en fait. C'est l'impression que ça me donne. Il y a plus des indices récents qui montrent que les grandes manœuvres ont commencé en fait. Évidemment, on ne le voit pas. C'est totalement invisible ou presque pour nous parce que l'actualité est saturée par des choses secondaires, etc. Mais quand on fouille un peu, quand on cherche un peu, on voit que les États-Unis ont tué Oussama Ben Laden. Moi, je crois que de toute façon, je sais même pas. Il y a des moments, je me demande si Oussama Ben Laden a jamais existé. J'ai presque l'impression qu'on me monte un film monté ex nihilo. Je pense quand même qu'il a dû exister. Il y a dû y avoir un Ben Laden. Il a dû être utilisé par les États-Unis. Il s'est peut-être retourné contre eux. Il y a une part de vérité dans ce qu'on nous dit.
Voilà. L'important, c'est qu'aujourd'hui, Ben Laden est mort d'après les Américains.
Qu'est-ce que ça
veut dire? L'annonce.
Voilà.
Qu'est-ce
que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se met en situation de ressoutenir de gentils islamistes. Par exemple, c'est ce qui se passe en Libye. Et on voit très bien que ça arrive au moment où c'est bien pour les Occidentaux, et les Américains en particulier, le fonds souverain libyen ne soit pas utilisé par des gens finalement qui ont pris langue avec les Russes et les Chinois. Les grandes manœuvres ont commencé, là on le voit. On voit aussi que les grandes manœuvres ont commencé, et là encore ça recoupe cette affaire de Ben Laden, au Pakistan. Manifestement, les Chinois ont fait savoir aux Américains que toute attaque contre le Pakistan serait vue comme une attaque contre la Chine. C'est extrêmement dangereux. Donc quand on arrive sur des niveaux de risque comme ça, quand on pousse les choses à ce point de tension, c'est qu'il y a eu une perte de contrôle.
Oui, et puis vous dites, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, vous avez raison, et on commence à en voir quand même de plus en plus, et on en a parlé d'ailleurs à ce micro il y a 4 semaines, quand on voit qu'un certain nombre de pays, je pense notamment à l'Argentine et au Brésil, modifient leur législation pour encadrer et réduire les prises de contrôle de terres arables par les nouveaux acquéreurs que sont ceux-là qui acquéraient du produit financier ou des fonds en portefeuille, des actions et des obligations d'entreprise. C'est terminé, c'est totalement démodé. Je dis aux petits épargnants, arrêtez d'acheter des actions d'entreprise, achetez des forêts. Non, blague à part, sans vouloir affoler Margot, mais on voit bien qu'il y a un mouvement considérable de retour vers l'économie réelle. Les flambées aujourd'hui des cours des matières premières, y compris et surtout des matières premières agricoles, en sont un témoignage. Et le troisième témoignage, et j'en parlerai tout à l'heure, puisque l'actualité est chaude, me semble-t-il, sur ce sujet-là, c'est effectivement, en lien avec l'exacerbation des tensions, c'est je ne vais pas dire de nouveau la course aux armements, mais c'est un réarmement globale des principales puissances.
J'aimerais bien qu'on revienne sur l'Europe, parce que il y a une chose qui m'intrigue depuis un moment, c'est que cette crise qui s'est traduite en Europe à travers, effectivement, comme le disait Philippe, l'exemple grec, quand on voit la dette grecque à l'échelle de l'Europe, le problème de la Grèce aurait pu être réglé par l'Union européenne.
C'est rien du tout.
Sans trop de problèmes. Pourquoi on amène le FMI? Comment on explique toutes les réticences et l'impression que la Grèce, on a l'impression que la Grèce a été sacrifiée. Ça a été l'exemple qu'il fallait donner. Bah, pourquoi affoler les marchés tels que ça s'est passé?
D'abord, il faut savoir, quand on nous parle de la dette souveraine et des marchés de la dette souveraine, le premier truc à savoir quand même, c'est que les marchés de la dette souveraine, en pratique, très souvent, c'est deux gugus dans un bureau chez Goldman Sachs et deux ou trois gugus dans des bureaux dans les grandes agences de notation. Parce que le taux de contrôle sur le marché des warrants par les grandes institutions financières anglo-saxonnes est très fort. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que tout simplement les marchés, ça existe vraiment en la matière? Si vous avez des acteurs qui ont un taux de contrôle suffisant pour orienter le marché de façon décisive, est-ce qu'il y a encore un marché? Donc déjà, tout simplement, est-ce que c'est pas une guerre financière conduite, pour dire les choses simplement, par des gens qui veulent essayer de sauver le dollar et la livre sterling et qui ont besoin pour ça, en quelque sorte, de fragiliser la zone euro? Déjà, c'est une première grille d'interprétation possible. Et donc, à partir de là, on sort du discours qu'on nous tient, qui est un discours qui voudrait, en quelque sorte, que toutes ces évolutions soient quasiment mécanistes et qu'elles ne renvoient, en quelque sorte, qu'à des nécessités antérieures aux décisions des acteurs stratégiques. C'est pas vrai.
Est-ce que vous pourriez, pour la pédagogie de nos auditeurs, nous expliquer pourquoi faire peur sur la dette grecque? Et donc sur la zone euro, c'est sauver ou c'est retarder une échéance difficile pour la livre et le dollar? Vous pouvez nous faire ça tranquillement, en 2-3 minutes, pédagogiquement.
Alors je vais essayer. Déjà, on peut faire un premier constat. Lorsqu'il y a eu, en 2008, les grands plans de sauvetage, le bail-out aux États-Unis, très vite, la pression est montée sur la question des paradis fiscaux. Bon. Ça a donné lieu à une espèce de sketch assez bizarre, d'ailleurs, où le Luxembourg, la Suisse, Monaco ont été montrés du doigt, ce qui fait que la France, pays dirigé par Nicolas Sarkozy, et l'Allemagne, qui est, je le rappelle, un pays occupé militairement par les États-Unis aujourd'hui, c'est pas secondaire comme constat, sont allés s'expliquer sur ces paradis fiscaux. Personne n'a remarqué que aujourd'hui la place financière, ou le taux de contrôle, le taux de régulation, si vous voulez, enfin, une des places financières où le taux de régulation est le plus faible au monde, c'est la City londonienne. C'est-à-dire que vous êtes plus contrôlé si vous allez ouvrir certaines opérations aux Bahamas qu'à Londres. Donc déjà, il faut le savoir quand même, c'est un immense paradis fiscal. Et depuis la fin de sa désindustrialisation, la Grande-Bretagne ne survit que comme ça. Si demain la City londonienne implose, c'est fini. La Grande-Bretagne, c'est la catastrophe absolue. Bon, je crois qu'ils ont 12 ou 13% de leur PIB maintenant qui viennent directement de la City. Et comme le reste est financé en partie par un effet d'entraînement de l'argent qui rentre via ces activités offshore, quasiment offshore en fait, c'est quasiment ça, si demain cette place financière, cet immense paradis fiscal implosait, la Grande-Bretagne est morte. C'est un pays qui tombe très vite dans le chaos. Bon. Donc déjà, on voit ce qui se passe autour des paradis fiscaux européens. On voit que personne n'ose dire que le plus grand paradis fiscal, c'est la City londonienne. Et on voit tout ce que ça peut impliquer pour la Grande-Bretagne. Bon, moi j'ai tendance à dire, si vous voulez, pour sauver la City londonienne, il faut faire rentrer des capitaux dedans. Parce que là, vous le disiez tout à l'heure, il y a une énorme destruction de valeur latente qui est en train, en fait, de se produire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on ne la voit pas, parce qu'au fur et à mesure qu'elle se déroule, les banques centrales fabriquent l'argent qui permet de compenser, si vous voulez. Mais en réalité, elle est en train de se dérouler. On a une réévaluation à la baisse de tous les actifs qui est en train de se produire et qui touche surtout les actifs pas très fiables, pas très sûrs, pas très matériels, qui se trouvaient entre autres, par exemple, dans la City londonienne. Ce sont des gens qui sont en situation de panique, si vous voulez. Il faut qu'ils fassent rentrer du capital. Moi, c'est comme ça que j'interprète les choses. Évidemment, à moyen terme, ça sert à rien. Je veux dire, c'est absurde. Le modèle même qu'ils essayent de faire perdurer est définitivement mort. C'est une fois que la carte, en s'étendant, a phagocyté le territoire, quand elle commence à se replier, elle se replie, c'est fini. Mais là, ils essayent de durer. Moi, c'est comme ça que j'interprète les choses. Peut-être que je me trompe. Et pour ça, il leur faut faire rentrer du capital avec des gens qui vont acheter des bons du trésor américains. Je ne sais pas si les Chinois vont continuer encore éternellement à financer la dette américaine. Il leur faut faire rentrer du capital pour maintenir à flot la City londonienne. Et à mon avis, une grande partie de ce qui se joue autour des zones fragiles du sud de l'Europe se joue pour cette raison. Parce que ça, si vous voulez, on sait très bien que si jamais la zone euro explose, il va y avoir des gagnants et des perdants. Il n'est pas très difficile de deviner que les gens qui auraient des actions, des placements en liquidité, par exemple, qui seraient en euros aujourd'hui et qui seraient convertis demain en euros latins, perdent 30%, 40% de leurs placements presque du jour au lendemain. Et donc ça fait peur et ça va probablement ramener du capital vers l'anglosphère. Moi j'interprète ça comme ça. Je reconnais cela dit que c'est le point de vue de quelqu'un dont le métier est le contrôle de gestion industrielle et qui juge donc les choses sans forcément comprendre tous les détails de ce qui peut jouer sur le court terme au niveau des marchés. Parce que la finance de marché aujourd'hui c'est totalement déconnecté de la finance d'entreprise. Ce qui fait que quelqu'un dont le métier est la finance d'entreprise est parfois bien embêté pour comprendre toutes les ruses de cette finance de marché devenue presque totalement déconnectée du réel. Mais intuitivement, si vous voulez, si la logique est respectée, c'est ce qui est en train de se passer.
Hein. Alors, depuis un moment, on voit fleurir, après cette crise, les thèses sur la mondialisation. Ici même, nous avons reçu des personnalités comme Georges Corme, Hervé Juvin. La faute est à la mondialisation. Pourtant, dans cette mondialisation, il y a des acteurs importants et souvent opposés. Les États-Unis, la Chine, on en a parlé, l'Inde, la Russie, ces pays ont des intérêts, une politique. Pour les États-Unis, ils ont aussi une armée. L'Europe n'est-elle pas la seule à subir cette mondialisation? Aurait-on perdu cette fameuse volonté de puissance en nous expliquant que c'est mondial? On parle de crise mondiale, mais a-t-elle vraiment été mondiale, mais pas plutôt occidentale?
Concernant votre constat, je crois que c'est un constat d'évidence. Il faut pas oublier que l'Europe est encore aujourd'hui un continent largement occupé militairement. Parce que autant sur le plan politique, le cœur de l'Europe, c'est la France, sur le plan économique, c'est l'Allemagne. Si un jour l'Europe se révolte contre les forces qui sont en train de la détruire, la révolte politique partira de France, mais la révolte économique partira forcément d'Allemagne. Parce que c'est là que se trouve, en fait, le poids lourd, si vous voulez, de l'Europe sur le plan économique. Or, il se trouve que ce poids lourd, aujourd'hui, est toujours occupé militairement. C'est-à-dire que, et ça, il ne faut pas le perdre de vue, il y a toujours des bases américaines en Allemagne. La fondation Atlantique Brücke a été reprise en main récemment, manifestement, par les réseaux purement américains, c'est pas un hasard. Et quand on entend, par exemple, quelqu'un comme Emmanuel Todd s'étonner, Todd, par ailleurs, qui a là-dessus, à mon avis, un très bon discours, il a raison, mais quand il s'étonne du peu de volonté dont témoignent les Européens dans cette affaire, ben, il dit non, je crois qu'il n'y a pas de quoi s'étonner, c'est pas compliqué. Le cœur économique, la puissance économique qui a le pouvoir d'entraîner les autres éventuellement, est encore occupé militairement. Et c'est, à mon avis, c'est la clé de la situation en Europe. C'est la clé de la situation en Europe. Après, qu'est-ce qu'il faudrait faire, si vous voulez, par rapport à ce...
Non, parce que souvent, c'est vrai que vous parliez d'Emmanuel Todd, je pense aussi à Jacques Sapir, il y a quand même tout un discours, il suffit de quitter l'euro parce que de toute façon ça devient inévitable. Ouais. Et puis on va reprendre notre petite politique avec notre franc et l'Allemagne nous a entraîné un peu dans une économie. Est-ce que c'est pas un peu le bouc émissaire un peu facile l'Allemagne dans cette histoire ?
Et Emmanuel Todd a quand même une rhétorique.
Lucien Valdès.
Une rhétorique anti-allemande assez prononcée.
Ouais. Alors est-ce que l'Allemagne est le bouc émissaire ? Oui et non, c'est-à-dire que, si vous voulez, quand Jacques Sapir explique que l'Allemagne a joué le jeu de l'euro pour défendre ses propres intérêts, il a tout à fait raison. On peut pas dire le contraire, c'est absolument vrai. En même temps...
ça se met une balle dans le pied, parce que...
En même temps, à long terme, effectivement, je vois pas trop où ça les mène, et ils vont forcément bien réfléchir à un moment à ce qu'ils font. Et puis d'autre part, il faut bien dire qu'il y a quand même une différence. Pour moi, aujourd'hui, la France est victime de deux prédateurs impériaux, si vous voulez. Un prédateur impérial thalassocratique anglo-saxon et un prédateur impérial économique et continental allemand. Il y a une différence entre les deux, c'est que le prédateur thalassocratique, aujourd'hui, parce qu'il n'a plus d'économie réelle, non seulement il vous bouffe, mais à la place, il fait le désert. Alors que le prédateur impérial continental allemand, il vous bouffe, mais il construit quelque chose quand même. Donc il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire que du côté allemand, il y a un vrai problème aujourd'hui pour la France. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est moins grave, si vous voulez, d'être placé en dépendance d'un petit empire en face duquel on peut construire un rapport de force et qui défend encore son économie réelle, que d'être placé en dépendance d'un immense empire en implosion, très dangereux parce qu'il sent en quelque sorte que le monde lui échappe, et en face duquel, pour nous, c'est très très difficile de construire un rapport de force. Moi, c'est comme ça que j'aurais tendance à poser le problème. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt, on va dire, dans un tropisme pro-allemand, et des gens qui sont dans un tropisme anti-allemand. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je dis simplement, regardons la réalité aujourd'hui des rapports de force, regardons la réalité des forces agissantes. Avec quoi, aujourd'hui, on peut faire contrepoids à ce prédateur qui devient de plus en plus violent parce qu'il est de plus en plus fragile en réalité et qui vient fondamentalement de l'anglosphère. Je précise que j'ai absolument rien, évidemment, contre les peuples anglophones. C'est absolument pas le
mot. Nous
non
plus.
J'ai plein d'amis anglais ou américains, il n'y a pas de problème. C'est simplement, il se trouve que c'est là qu'est la base aujourd'hui de puissance de la finance virtualisée, si vous voulez. Comment on fait pièce à ça aujourd'hui, concrètement ? Ben, il y a quand même un moment où il faut regarder la réalité des rapports de force et dire que la France toute seule, en face de ça, ça fait pas le poids. Donc il va forcément falloir trouver une entente avec les Allemands et à travers en fait les Allemands, derrière avec les Russes. Parce qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui se passe au niveau de l'Allemagne et de la Russie qui est très important, qui est très structurant. Bon. Moi, c'est ce que je dis. Ça veut pas dire que je suis dans un tropisme pro-allemand. Je suis pas non plus dans un tropisme anti-allemand. Je dis simplement dans la réalité des rapports de force aujourd'hui, s'il y a une grande politique encore à déployer en France, on imagine qu'un jour on a des gens au pouvoir qui ne sont pas des traîtres. On imagine. On sait jamais, ça peut arriver. C'est cette grande politique-là, à mon avis, qu'ils doivent déployer. C'est ce que je dis, en fait.
Oui, avec une actualité récente, on le verra.
Philippe Christel.
Nous sortons quand même de ce G8 de Deauville qui a formalisé l'accord sur les quatre bâtiments de projection et de commandement Mistral pour la Russie. Donc, il y a des tendances lourdes qui se confirment.
Oui, parce que quelque part, l'Allemagne aura besoin de la France pour trouver un équilibre vis-à-vis des Russes.
Oui, puis juste sur la notion, c'est un petit peu de la sémantique. Je suis relativement en phase avec ce que vous avez dit. Je suis choqué, c'est un peu excessif. Je suis pas souvent choqué, mais vous utilisez deux fois le mot prédateur pour les qualifier très différemment. Je voudrais rappeler primo que l'Allemagne utilise son poids économique, qui est le seul poids que les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, y compris les Français qui ont longtemps cru qu'ils l'avaient gagné, lui ont laissé. Primo. Et deuxièmement, quand on regarde aujourd'hui les faiblesses structurelles de l'économie française par rapport à l'économie allemande sur quelques sujets clés, en gros la capitalisation des entreprises du Mittelstand, la compétitivité avec le coût du travail et la formation professionnelle, on va dire, qui sont les trois grands piliers, ce ne sont jamais que des choses que nous nous interdisons de faire. Et quand on voit que dans les 8 dernières années, on a augmenté de 14% le coût du travail exclusivement chez nous par le poids des cotisations qui pèsent et qui n'ont rien à voir avec la fiscalité purement du travail, on creuse l'écart de compétitivité qui amène effectivement un différentiel qu'on qualifie, je crois, un peu abusivement de prédation. Mais voilà. Bon.
Michel Drac.
Précision sémantique, mis à part. Je pense qu'on n'est pas très loin. Non, mais
je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est quand même pas de la faute des Allemands si la France est aujourd'hui objectivement très mal gouvernée. Ça, je suis bien d'accord. Maintenant, il y a quand même une grande stratégie qui est déployée par le patronat industriel allemand qui remplace petit à petit le Made in Germany par le Made by Germany. Pourquoi vous arrêtez plus de voir rouler des Skoda? Bon. Je vous dis, la différence, c'est une conquête économique, c'est pas une conquête financière. C'est mieux.
Oui,
il y a quelque chose au moins derrière.
Une conquête réelle.
Enfin, il y a quand même bel et bien une conquête. Hein. À mon avis.
L'économiste Georges Lecorne nous expliquait que le système, là on va arriver à savoir s'il faut vraiment changer de système, le système néolibéral se présente comme l'envers de la dogmatique marxiste et qu'elle terminera comme lui dans l'échec et l'implosion. Et qu'on a eu tort de les opposer, au fond il n'était que les faces de la même pièce. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Est-ce qu'en fait c'est pas le deuxième système du XXe siècle qui est en train de s'écrouler après le marxiste?
Alors je vais vous donner une réponse de contrôleur de gestion industrielle, figurez-vous. C'est pas ordinaire.
Exclusif.
C'est pas ordinaire.
De moins en moins.
Oui. Il y a une chose qui me frappe quand on parle d'économie aujourd'hui. Je n'arrête pas de lire des analyses de macroéconomistes qui utilisent les agrégats de la macroéconomie et qui en particulier établissent des équivalences sur la base de la valorisation financière entre le nombre de tonnes de fer qu'on sait produire, le nombre de tonnes de blé qu'on sait produire, le nombre d'heures de services plus ou moins réels qu'on sait ou pas apporter à la population, etc., etc. La qualité de la production n'existe plus dans la vision économique. On ne se pose jamais la question de ce que recouvrent, j'allais dire physiquement et de façon palpable, les agrégats qu'on résume par des quantifications. Eh bien, on a tort. Et en particulier...
Est-ce que ça fait pas référence, vous savez, lorsque nous étions jeunes, à ces millions de tonnes de charbon, millions de tonnes de blé qu'on apprenait dans les cours, que l'URSS devait produire et qu'on apprenait dans les livres d'histoire, dont on s'aperçut deux ans plus tard que finalement, c'était...
J'ai de grands souvenirs de ma classe de prépa HEC en 1986-87 où j'ai dû apprendre par cœur les statistiques de production de l'URSS.
Mais effectivement, pour prendre un exemple concret aussi pour montrer à nos auditeurs, c'est qu'au plus fort de la crise financière récente et quand on a vu l'effondrement d'un certain nombre de valeurs boursières, et quand on regardait des titres qui étaient des titres qui n'étaient pas particulièrement désirés par le marché, je vais prendre un titre qui parle bien aux auditeurs parce que la marque est connue, qui est le groupe PSA Peugeot Citroën. Donc tout le monde voit bien ce que ça fait des voitures, ça fait des moteurs, il y a des usines beaucoup en France, en Europe occidentale. Et c'est une action, l'action PSA n'est pas une action intéressante parce que comme PSA est un groupe qui est contrôlé par la famille et qu'a priori elle annonce régulièrement le fait de ne pas vouloir céder le contrôle, le potentiel de spéculation autour du titre est très faible, donc peu intéressant, et donc ce titre a subi une décote forte au moment de la crise, et je parle plutôt là dans le deuxième semestre, début deuxième semestre 2009, et on était arrivé à un moment tout à fait fascinant où le total de ce qu'on appelle la capitalisation boursière, c'est-à-dire 100% de la valeur de l'entreprise telle que représentée par le prix de son action, était notoirement en deçà de la somme de la valeur nette comptable des actifs Je ne parle même pas des attendus et de sa dimension qualitative, mais vous prenez les usines, il y a des machines, il y a des machins, etc. Vous prenez un stock, vous prenez des bagnoles, vous prenez des brevets, je ne parle même pas non plus de valeur immatérielle de la marque, parce que là, on peut après faire ça. Et donc, vous aviez un écart, et donc une décorrélation absolue de ce système de ce qui était initialement une bourse d'échange, et donc une valorisation, une capitalisation avec une réalité tangible. Et je pense que c'est plutôt ce type d'exemple correspond à ce que vous vouliez dire également sur les stocks de blé ou que sais-je.
Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe, si vous voulez, c'est que, en fait, quand l'Union soviétique s'est écroulée, les gens qui avaient fait un petit peu d'analyse qualitative de façon sérieuse, n'ont pas été surpris. Vous lisez aujourd'hui les travaux d'Hélène Carrère-Dancausse ou ceux d'Emmanuel Todd, déjà à l'époque, ils n'ont pas été surpris parce qu'ils étaient rentrés dans le qualitatif. Par contre, les gens qui s'arrêtaient au quantitatif, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais ça s'écroule, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ils produisaient tant de millions de tonnes d'acier. Ah oui, mais évidemment, quand vous mettez des criques de 50 kilos dans les Lada, vous produisez plein d'acier. Bon. Toute mesure, si vous voulez, économique, qui fait l'impasse du qualitatif, finit, si elle est prolongée sur un certain temps, par se déconnecter du réel et par interdire les raisonnements prospectifs. Bon, vous pouvez constater, effectivement, on a fabriqué tant de millions de tonnes d'acier. Ça, c'est vrai. Bon, plus ou moins, mais enfin, en général, c'est à peu près vrai. Mais et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas la même chose de fabriquer de l'acier qui sert à quelque chose, qui est intégré dans des chaînes logistiques bien conçues, permettant de dégager une création de valeur réelle, et de fabriquer de l'acier qui va servir à fabriquer de l'acier.
Bon. C'est un peu la différence d'Arcelor et de Mittal à l'époque où ils étaient séparés.
Voilà. L'Union soviétique, c'était ça. L'Union soviétique, elle est tombée là-dedans. Je pense que notre système tombe sous une forme différente, un peu dans la même chose. Alors ça se manifeste pas de la même façon, parce qu'on est quand même dans une économie de marché. Bon, ça commence à être une économie de marché un peu bizarre, je trouve. Enfin, c'est quand il y a encore une économie de marché, il y a encore une sanction du marché. Donc il y a encore des gens qui font l'ajustement pour qu'il y ait des prestations à la population. On tombe quand même pas à ce stade dans les délires de l'Union soviétique finissante, où bon, c'était n'importe quoi, il faut bien le dire. Mais sous une forme différente, le délire quantitatif soviétique se produit aussi, mais il est décalé dans l'univers virtualisé. C'est-à-dire que il y a un monde réel, si j'ose dire, qui continue bon an mal an, tant qu'il peut, mais de plus en plus mal, parce qu'il a sur le dos l'énorme poids du virtuel qu'on accumule sur ses épaules, à fonctionner plus ou moins, avec des ingénieurs qui essayent de continuer à réfléchir à l'évolution des outils de production à 10 ou 15 ans, et des directions financières qui deviennent schizophrènes, avec une moitié de la direction financière qui parle avec des ingénieurs pour 10 ou 15 ans, et l'autre moitié qui parle avec les marchés pour demain matin.
Pour se refinancer à 6 mois, et donc...
Donc, en fait, je crois qu'il se passe un peu ce qui s'est passé en Union soviétique, et un peu pour les mêmes raisons, j'allais dire presque sur le plan conceptuel, mais ça prend une forme très différente, c'est-à-dire que le délire chez nous est décalé dans une sphère virtualisée beaucoup plus sophistiquée que ce que le système soviétique avait fabriqué.
Alors, je voudrais revenir sur ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que il y a un domaine qui est assez important, qui pourrait faire que ce système ne tienne plus, c'est la première bourse au monde, qui est la bourse de Chicago, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas Wall Street, je crois qu'en chiffres, c'est d'après ce que j'ai pu lire, c'est la bourse des produits agricoles, des produits dérivés, et la spéculation sur la nourriture et les céréales. Est-ce que ça ne va pas être la prochaine bombe à retardement? Parce que là, on ne va pas pouvoir inventer...
Je crois que...
Encore que, on ne sait jamais.
Au fur et à mesure que les bulles explosent, ils sont en refabriqués d'autres. Hein, c'est la façon dont fonctionne visiblement aujourd'hui cette espèce d'énorme sphère coupée du réel, où un capital suraccumulé qui ne trouve plus en réalité de débouchés dans l'économie réelle se rentabilise optiquement Donc on va de bulle en bulle, hein. C'est depuis la bulle internet, ça n'arrête pas. Il y a eu la bulle internet, il y a eu la bulle de l'immobilier. Dès qu'elle a commencé à imploser, il y a eu la bulle des matières premières et des produits agricoles. Ensuite, il y a eu la bulle des dettes publiques d'une certaine façon. Qu'est-ce que c'est les bail-outs? Là, on revient sur des bulles des matières premières, etc.
Parce qu'on risque d'avoir des conséquences entre le nord et le sud qui va être quand même un peu plus compliqué.
On peut penser légitimement que les révolutions arabes sont en partie liées à ça. C'est sûr qu'à partir du moment où vous avez des rigolos qui s'amusent à faire monter, à doubler le prix du paquet de semoule, quand on sait qu'un smicard en Afrique du Nord il gagne 150-200 euros par an, par mois, pardon, quand même, n'exagérons rien, par mois, 200 euros par mois, et que le prix de la semoule n'est pas tout à fait le même que chez nous, mais il est presque le même, quoi. Vous imaginez ce que ça veut dire si on lui double le prix de la semoule. Donc oui, c'est sûr. Enfin, je veux dire, de toute façon, le truc bute sur des limites matérielles, parce que au fur et à mesure, justement, que le territoire a été dévoré par la carte, la carte commence maintenant à se faire rappeler à l'ordre, en quelque sorte, par la révolte du réel. Et ça peut se faire, entre autres, oui, par les produits agricoles. Bon,
ça a commencé. Les émeutes de la faim, le concept d'émeutes de la faim qui ont ému les grandes consciences ont commencé. Et aujourd'hui, les régulations des États sur les acquisitions de matières premières dont je parlais tout à l'heure, c'est la même chose. La course des richesses, la course vers les richesses, la course vers les gisements, la course des Chinois sur l'Afrique, ceci participe de cette tendance-là, oui, clairement.
Ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est que comme on n'a pas pensé l'économie en termes matériels, comme on l'a pensé en termes immatériels, comme on n'a pas pensé l'économie en termes qualitatifs, de processus, de compréhension des processus économiques, mais qu'on l'a pensé en termes de macroéconomie, comme si tout était pouvait être inscrit dans la carte financière. On n'a absolument pas... On a consacré des ressources prodigieuses à faire fonctionner des places boursières ultra sophistiquées pour des arbitrages au centième de pourcent et à la milliseconde. Et on ne s'est pas posé la question de comment on va faire bouffer 9 milliards d'êtres humains dans 20 ans si les courbes de déflation pétrolière correspondent aux hypothèses pessimistes, et sachant qu'on voit très bien qu'on ne peut pas s'en sortir par le nucléaire. On ne s'est pas posé la question. Donc aujourd'hui, on est dans une situation très simple où on peut. Il y a des courbes qui montrent ça. Est-ce qu'elles sont exactes ou pas? Ça, c'est un grand débat. C'est compliqué. Mais il y a des courbes qui montrent très bien une perspective démographique pour la planète en 2040 à 9 milliards d'habitants et une capacité à produire et à transporter des matières premières agricoles qui permettent de faire manger raisonnablement 4 milliards de personnes. Et ce qui est dramatique sur la façon dont l'économie a fonctionné depuis 20-30 ans, c'est qu'on a mis des ressources intellectuelles prodigieuses pour arbitrer le virtuel au centième de pourcent et à la milliseconde, et qu'on ne s'est pas posé la question du réel à 30 ans et à 5 milliards d'êtres humains près, quoi.
Bah oui, je pense qu'on va... Un mot, Lucien Valdès, Philippe Festel. Bah écoutez,
merci. Bonne conclusion.
Merci Michel Drac. Je vais rappeler aux auditeurs vos principaux ouvrages autour de la crise économique. C'est Crise économique et crise du sens, et Crise au coup d'État, deux essais aux éditions Le Retour aux Sources. On vous mettra tous les liens sur notre site internet. Vous pouvez effectivement les commander sur le site scriptoblog.com. Et vous trouverez bien d'autres livres aussi passionnants. Préparer cette émission, je me suis aidé aussi du nouveau Gouvernement du Monde de Georges Cormes aux éditions La Découverte et du dernier numéro de la revue Crisis sur le thème Le Chaos, avec un texte de Michel Drac sur le chaos monétaire qui est passionnant. Je l'ai compris, donc ça veut dire que n'importe qui peut le lire sans problème. Et dans la même veine, je vous signale aussi l'essai d'Alain Soral, Comprendre l'Empire aux éditions Blanches, qui sera un très bon complément à vos textes, Michel Drac. Nous allons faire juste une petite annonce de Radio Courtoisie, puis retrouver notre ami Philippe Christel pour toute l'actualité.
Dimanche 19 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 19 juin, de 14h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux. Offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 19 juin, fête de la Courtoisie, espace Champéret, rue Jean Oestreicher, Paris 17e, métro Porte de Champéret. Entrée 9 euros. Gratuit pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
De retour dans les chroniques de la vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie, notre deuxième partie avec Philippe Christel. Mon cher Philippe, quelle est l'actualité de notre si belle Europe ?
Eh bien écoutez, une actualité très riche, très chargée pour ce que j'ai voulu isoler et présenter à nos auditeurs. On va commencer à tout seigneur, tout honneur par la Russie. Michel Drac en a parlé. Et puisqu'il s'est passé quelque chose, un événement festif que je ne suis pas sûr que vous avez vu, Patrick, mais le 11 mai, eh bien, à bord du solitaire, qui est un navire poseur de tuyaux et qui travaille sur les fonds marins du golfe de Finlande, eh bien, le président Dmitri Medvedev a officiellement lancé la construction, la pose du second tube du gazoduc Nord Stream, opérationnel. Le premier tube est opérationnel, il faut un deuxième, c'est comme dans le tunnel sous la Manche, hein, il faut toujours deux trucs. C'est comme les gendarmes, mais, enfin bref. Hein.
Il y a combien de temps entre chaque tube
C'est un tube de secours.
Enfin, j'en sais rien.
Il faut deux tubes. Bon, d'accord. Ce que je sais, c'est que l'ensemble devra être opérationnel en 2012. On se rappelle, hein, ce gazoduc, il a l'immense avantage de desservir sans intermédiaire, ce qui limite les risques politiques, les marchés allemands, britanniques, néerlandais, danois et français. C'est un consortium qui est partagé entre Gazprom, le russe, qui détient 51%, et un certain nombre de partenaires européens, dont le français GDF Suez, qui en a 9%. Et puis, rappelons que Gazprom, on le connaît bien, Gazprom fournit le quart de l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne, c'est 15% de nos approvisionnements, puisque la France fait partie, quoi qu'on en dise, de ceux qui diversifient pleinement leur approvisionnement entre la Norvège, l'Égypte, l'Algérie et la Russie, plus un certain nombre d'autres petits fournisseurs. Et qu'on mesure bien ça à l'aune de la décision toute récente de l'Allemagne de sortir du nucléaire, le gazoduc va fournir demain l'équivalent pour les Européens de 50 centrales électriques au charbon et de 14 centrales nucléaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est que plus personne n'en parle à l'Union européenne, mais sur le flanc sud de l'Europe, c'est le projet South Stream qui est validé, qui passera sous la mer Noire, qui sera opérationnel en 2015, qui lui va fournir 63 milliards de mètres cubes, EDF y participe à 20%, et c'est totalement l'enterrement, en toute discrétion, du projet occidental Nabucco, qui avait, lui, pour vocation de, justement, créer un lien avec un gaz iranien, à l'époque où on pensait que l'Iran, peut-être, pour éviter la dépendance russe. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, on continue à gloser sur, il y a toujours les anciens et les modernes, sur le rôle de Gazprom. Alors on s'émeut, on dit que Gazprom, c'est évidemment la main de la puissance russe. C'est vrai que c'est le premier producteur mondial de gaz. Enfin, c'est quand même une multinationale comme une autre. Aujourd'hui, Gazprom tire 60% de ses revenus de la vente de gaz à l'Europe. Et donc c'est important, quand on est dans une relation équilibrée, de penser que la dépendance forte d'un côté est aussi une dépendance de l'autre. On constate que avec une décision comme celle de l'Allemagne, et j'y reviendrai, de suspendre le nucléaire, c'est donc de faire fonctionner des centrales au charbon ou au gaz. Ce gaz, il faudra bien qu'il vienne de quelque part. Il viendra de Russie. La Russie, elle, continue d'exploiter effectivement ses ressources, mais elle a également besoin des technologies européennes pour aller chercher les nouveaux gisements. Les nouveaux gisements, où sont-ils ? Ils sont en Arctique. Et le réchauffement climatique, puisqu'on en parle, permet de plus en plus de s'approcher d'un certain nombre de zones. Voyez un petit peu la boucle, hein. L'Allemagne arrête le nucléaire, a besoin plus de gaz. Arrêtant le nucléaire, va rejeter plus de CO2, précipiter le réchauffement climatique et donc faciliter... Alors les cycles sont plus longs, donc le raisonnement ne tient pas. Mais c'est assez intéressant. Donc on a le Total, là, est bien placé dans la coopération avec la Russie, puisque c'est 25% du fameux gisement de Shtokman en mer de Barents. On en a déjà parlé. C'est 2% des réserves mondiales de gaz. C'est un chantier technologique immense, et pour beaucoup d'observateurs, entre GDF Suez, EDF et Total dans Stockmann, les Français auront bien tiré leur épingle du jeu. On reviendra sur le sujet avec les conclusions que j'ai cité tout à l'heure du G8 de Deauville qui a vu la signature finale du contrat du Mistral, mais on peut se féliciter du rôle qu'a voulu jouer la France et Nicolas Sarkozy dans le lien avec la Russie. Un autre élément avec ce que nous sommes dans les chiffres totalement vertigineux, je pense qu'il est intéressant de revenir sur l'annonce qui a été faite, là encore, par le président Medvedev, qui a beaucoup travaillé au mois de mai, à l'issue des cérémonies traditionnelles du 9 mai. Vous savez que le 9 mai à Moscou commémore la victoire de la Russie sur l'Allemagne, puisque c'est la date du 9 mai. 8 mai pour l'Europe, 9 mai pour l'Allemagne, 10 mai pour la victoire de François Mitterrand. Voilà, c'est comme ça l'agenda. Plus sérieusement, Medvedev et Poutine ont annoncé une réforme fondamentale de l'armée russe avec un montant, tenez-vous bien, de 474 milliards d'euros pour 10 ans, permettant de remettre l'armée russe à des standards, on va dire, mondiaux, on ne dirait pas occidentaux. Là, l'effort va être considérable. C'est d'abord un effort d'équipement. On parle de 600 avions, de 1000 hélicoptères, de 100 bâtiments de guerre, dont des sous-marins nucléaires. On parle d'investissements massifs pour combler le principal retard des Russes qui est dans les systèmes de commandement, de contrôle et de communication. Et puis, on parle bien évidemment du renouvellement en profondeur du système de dissuasion stratégique russe avec ces nouveaux missiles qui découlent de la nouvelle doctrine militaire adoptée en 2011. Vous savez, celle qui continue à dire que l'OTAN fait partie des principales, est la première menace pour la Russie. On va y revenir avec ce qui s'est passé au G8 avec la visite d'Obama en Pologne sur le bouclier antimissile. Et puis, c'est une réforme qui est sans aucune... Alors, les analystes disent que cette réforme va être aussi profonde que la réforme apportée par Trotsky en 1921, parce que 200 000 officiers, c'est-à-dire 61% du corps, vont être mis à la retraite. Les unités vont être considérablement réduites pour passer, nous dit-on, de 1890 à 172 pour arriver à des unités sur le modèle européen, plus compactes, plus mobiles, mieux équipées, mieux articulées. Et puis, bien évidemment, c'est donc un budget d'achat qui est tout à fait intéressant. La France est en première ligne, je vais y revenir, mais les Italiens, vous savez que les Italiens sont le troisième partenaire économique de la Russie, bien devant la France malheureusement. L'Italien Iveco va fournir des véhicules blindés, les Allemands qui ont une certaine expertise dans le domaine vont fournir des véhicules blindés légers également. Et enfin, cette réforme a également un volet culturel et éducatif, puisque, ma foi, il faut également la compléter par une éducation militaro-patriotique indispensable à une grande nation.
Il n'y a pas eu une réaction américaine sur ces projets? Rien?
Non, la réaction
totale à Washington.
Bah, si vous voulez, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que annoncer un plan de près de 500 milliards d'euros sur 10 ans, il y a l'annonce et puis c'est 10 ans plus tard qu'il faut voir les résultats. Ça, c'est la première chose. Est-ce que la Russie gardera cette capacité de financement? On peut imaginer que oui, parce que les réserves dont la Russie dispose sont considérables. Deuxièmement, plus tard qu'hier, devant la commission du budget de la Douma, Vladimir Poutine annonçait que l'économie russe allait, à la fin du premier trimestre 2012, retrouver son niveau d'avant-crise. Et puis troisièmement, surtout, la modernisation complète de cet appareil de défense, de cet appareil militaire, vient en fait mettre un terme aux 10 à 15 années de sous-équipement chronique, à la corruption, à la dispersion d'un tout un arsenal militaire sans contrôle dans les anciennes républiques de ce qu'était l'URSS. Donc, on va dire que c'est une mise à niveau améliorée. Les Russes ont toujours, semble-t-il, deux thèmes sur lesquels ils restent les mieux-disants technologiquement parlant, qui sont les sous-marins nucléaires et puis les missiles balistiques porteurs de charges nucléaires, les fameux Boulava. Et donc, même si l'armée russe n'avait pas cette somme, elle aurait de toute façon sanctuarisé ces moyens-là, et l'Amérique n'en peut mettre sur ce sujet-là. D'autant plus que ce qui préoccupe l'Amérique, j'ai prévu d'en parler de toute façon, mais je vais le faire tout de suite, c'est la guerre spatiale contre la Chine. Ah. Et alors, parce que donc petite digression, mais aujourd'hui l'ensemble des acteurs du Kriegsspiel entre Washington et Pékin, tout le monde est en émoi parce que tout le monde suppute sur les capacités de l'autre, et il s'avérerait que tant que les Américains que les Chinois développeraient en même temps un type d'arme. Attends, je vais vous épargner les codes, mais en chinois, ça se dit le Shenlong, qui veut dire le dragon divin.
C'est ça? Oui, c'est joli.
Bon, chez les Américains, ça s'appelle le X-37. Voilà, c'est moins sexy, c'est tout moins suite, joli. Mais il y a un petit côté... bon, bref. Ouais. Et ces armements, à quoi servent-ils? Ils servent à embarquer, bon, comme d'habitude, des charges nucléaires ou conventionnelles, mais surtout, ce sont des armes qui sont des armes anti-satellites, dont... La mission première est d'aller détruire les satellites d'observation de l'adversaire. On sait que les Américains ont une peur bleue du dispositif de satellites chinois qui surveille de très près la zone Asie-Pacifique et qui pourrait demain envoyer des munitions ravageuses sur les mastodontes que sont les porte-avions de la flotte américaine en mer de Chine. Donc les Américains, pour répondre à votre question, aujourd'hui regardent plutôt cette zone de confrontation, c'est un peu la même chose que sur le terrain économique dont on a parlé tout à l'heure. Ils n'oublient pas, bien évidemment, de continuer à contenir la Russie et leurs petits camarades d'Europe de l'Est. C'est tout le sens de la visite de Barack Obama en Pologne, et je vais en parler. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de réaction particulière publique, en tout cas, des Américains sur le redressement de l'armée russe. Et puis, n'oublions pas que dans ce jeu à multiples facettes, les Russes peuvent également, et ils ont démontré leur fiabilité là-dessus, être des partenaires pour les Américains pour pacifier une Asie centrale qui échappe de plus en plus au contrôle des forces occidentales. Et bien évidemment, l'équipement de l'armée russe, c'est peut-être une mauvaise nouvelle demain pour les Géorgiens, mais c'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour les Américains parce que ça permet de tenir le flanc nord de la zone AFPAC. Donc je voulais peut-être un point plus particulier sur ce qu'on a vu sur la scène française. Donc on le sait, le document a été signé, les quatre Mistral. Hein, je rappelle que les Mistral, ce sont le Mistral, c'est le deuxième plus gros bâtiment de la flotte française après le porte-avions Charles de Gaulle. C'est un bâtiment de projection et de commandement, c'est-à-dire c'est un bâtiment surarmé, très protégé, qui permet de manière très rapide de projeter des forces sur un théâtre d'opération. Et voilà bien quelque chose que la Russie est incapable de faire aujourd'hui. On avait beaucoup reproché à la France de vouloir vendre les Mistral à la Russie, parce que c'est une technologie qu'elle ne maîtrise pas, d'une part, et puis parce que au moment de la correction infligée au trublion géorgien, un amiral russe, l'amiral Vysotsky, qui est le chef d'état-major de la marine russe, avait dit « Ce navire aurait permis à notre flotte de la mer Noire de faire en 40 minutes ce que nous avons fait en 26 heures ». Alors vous me direz, il n'y a que 25 heures d'écart, le résultat est toujours le même, mais ça avait beaucoup ému que l'on puisse aider ainsi les Russes. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des observateurs que l'on peut écouter ou lire sur ce nouvel axe stratégique militaire entre la France et la Russie, l'ensemble des observateurs vous le disent, nous ne sommes qu'au début des opérations, c'est le début de l'histoire. Je vais donner quelques exemples. Premier exemple, le Mistral, je l'ai abondamment dit, et je rappelle que l'accord qui est signé, enfin le contrat sera signé dans 15 jours par Vladimir Poutine à Paris, se place sur la fourchette haute des différentes options qui ont été envisagées suite d'un jeu de poker menteur assez traditionnel. Deuxièmement, depuis 2009, le ministère de l'Intérieur russe négocie avec l'entreprise Panhard l'achat de 500 à 1000 véhicules blindés légers. L'enjeu, c'est de pouvoir équiper les unités d'élite du ministère de l'Intérieur, les fameuses aumônes et les fameuses forces spéciales Spetsnaz, qui demain peut-être vont rouler français. Voilà, ça serait quand même une bonne nouvelle. Troisièmement, ce que vise la Russie, c'est également d'acheter un certain nombre d'exemplaires du programme Félin. Programme Félin. Félin, c'est l'acronyme de Fantassin à équipement et liaison intégrée. C'est un nouveau système de combattants ultra moderne pour le Fantassin, avec moyen de navigation, radio individuelle, ordinateur. Enfin bref, le soldat devient un robot du 21e siècle. Et l'armée française commence tout juste à s'équiper de cette technologie-là. Et enfin, dernières informations semi-confidentielles. Elles ne sont pas confidentielles, sinon je ne l'aurais pas appris. Mais enfin, on ne l'a pas vu beaucoup.
Vous avez
le chef d'état-major dont je parlais, notre brave Vysotsky, vient d'évoquer il y a quelques mois, la possibilité pour les Français de construire pour la base, pour la flotte russe, une base navale. Alors c'est pas la porte à côté, c'est à Vladivostok. À la fois peut-être pour servir de garage à BPC, mais également pour réhabiliter des capacités de projection pour la flotte russe. Donc ce qui est intéressant quand même, c'est que on est là sur un marché qui s'ouvre. On parle demain de possibilités de vente d'armes offensives, d'armes anti-aériennes. Tout le monde, la DCNS ne rêve que d'une chose, c'est de construire un porte-avions pour les Russes. Les Allemands y trouvent leur compte. Israël y trouve son compte puisque c'est un fournisseur de technologie militaire également important. Mais ce qu'il faut quand même constater, c'est que Nicolas Sarkozy comme François Fillon ont été plutôt constants. Nous l'avons dit à cette antenne. Nous savons être souvent critiques sur la diplomatie française pour ne pas lui reconnaître quelques bons engagements, même si tout ça est un peu erratique et qu'il y a toujours un coup à gauche, un coup à droite. Mais en tout cas, ce dossier aura été de A à Z soutenu par l'exécutif français et c'est aujourd'hui un succès. Le contrat Mistral va nous permettre de maintenir des chantiers navals, sacrifice que les Anglais ont fait, de maintenir également des chantiers navals, difficulté que nous aurons peut-être si nous n'arrivons pas à placer notre Rafale s'agissant de l'industrie aéronautique. Donc il y a un certain nombre de choix qui sont faits quand même pour préserver un peu de technologie, pour préserver un peu de main-d'œuvre, pour préserver une base industrielle et pour faire de la France un pays qui continue à rayonner par sa technologie militaire dans le monde et enfin densifier un axe Paris-Moscou qui nous tient à cœur.
Qui était loin d'être évident vu que les pressions américaines ont été fortes et vu qu'on était re-rentré dans l'OTAN, c'était loin d'être évident. Mais vous dites que les Italiens aussi s'y mettent, sont prêts à franchir le pas.
Bon, les Italiens ont une coopération sur de la technologie, je vais dire de seconde zone. Il ne faut pas qu'ils le prennent mal, nos amis italiens. Mais enfin, vendre des camions Iveco, ça fait moins frémir l'OTAN que si vous voulez. La vente du Mistral, c'est la première fois.
La peinture camouflage de ces.
C'est l'al dente. C'est la vente du Mistral, c'est le premier vrai transfert de technologie ou capacité donnée de copier de la technologie à un pays non OTAN. Et d'ailleurs, le contrat aujourd'hui est très très flou sur le niveau d'équipement, notamment en capacité de transmission et de pilotage géosatellitaire. Il se dit que la France aurait demandé à l'OTAN d'être particulièrement discrète et avenante sur le fait qu'on transfère avec ce BPC quelques systèmes de transmission qui sont pas au cœur de la transmission OTAN, mais qui font partie des technologies OTAN et qui devraient être soumises à autorisation avant exportation. Voilà, ça c'était pour la bonne nouvelle franco-russe du G8. Le G8 de Deauville a été marqué également par une mise en scène très clairement affirmée des deux chefs d'État, Barack Obama et Dimitri Medvedev, pour afficher une entente. Je vous rappelle que nous sommes dans la droite lignée de ce qu'on appelle le reset, a dit Barack Obama, le redémarrage des relations américano-russes. Il y a eu de la part de Barack Obama, vous le souvenez, un certain nombre de gestes, la volonté de geler le dispositif de bouclier antimissile, et puis derrière ce fameux dîner de Prague avec les patrons des pays d'Europe de l'Est, qui était une sorte de dîner d'adieu sur le thème, les gars, il va falloir maintenant que vous vous débrouillez tout seul. Le G8 et la tournée, ce qu'est en train de dire, et ce qu'a dit Barack Obama il y a 2-3 jours en Pologne, ce sont une petite réévaluation de cela. C'est-à-dire que c'est très intéressant, c'est qu'on a à la fois volonté de Barack Obama de rassurer les Polonais, et maintenant pour les Américains c'est très clair, quand je parle l'Europe de l'Est c'est la Pologne. Et d'ailleurs, Barack Obama est allé en Pologne, adoubé la Pologne comme étant chef de file des pays d'Europe de l'Est. Comme ça, il n'y a plus qu'une seule destination, on va économiser des billets d'avion. Oui,
beaucoup plus pratique.
Et accessoirement, comme c'est comme c'est les plus susceptibles du coin, ça fait pas de mal de leur mettre un peu de cirage.
Oui, il a même dit qu'il était polonais puisqu'il venait de Chicago, qui était la première ville polonaise des États-Unis.
Ah, bah alors ça tombe bien.
Oui, c'est Barack Obama. Il est irlandais, kényan, hawaïen. Et tout ce que
ouais, il boit de la Guinness.
On va se rendre compte qu'il a un vieux fond aveyronnais à un moment donné. Bon. Donc tout ça pour dire que premièrement, Barack Obama est allé mettre un grand coup de brosse à reluire auprès des Polonais, qui sont, et c'est pas totalement faux d'ailleurs, dont il dit vous êtes à peu près de tous les seuls à avoir réussi aussi vite et aussi bien le passage à la liberté, on va dire pour faire simple, et à une économie de marché maîtrisée et sans avoir perturbé vos fondamentaux. On pourrait creuser, il n'a pas totalement tort. Deuxièmement, de par sa taille et donc son emprise et ses ressources, Varsovie est le seul pays d'Europe de l'Est capable d'agiter pour Washington le spectre de l'occidentalisation des zones ultra-périphériques de la Russie, comme la Biélorussie, la Moldavie, sans parler de l'Ukraine, bien évidemment. Troisièmement, c'est ce sujet-là qui est intéressant. Là, on joue un petit peu à front renversé, au sens où le gouvernement polonais, qui est le gouvernement du libéral Donald Tusk, qui a succédé au frère Kaczynski, vous savez, dont le président Kaczynski ayant été victime de l'accident en se rendant à Katyn. Et donc, le nouveau gouvernement polonais a été beaucoup plus mesuré dans son soutien et dans son alignement sur les États-Unis. D'abord parce qu'ils ont compris que à être aligné indéfectiblement, on n'y gagnait pas, qu'il n'y avait pas que des bénéfices. Ça excitait les Russes, ça énervait un peu tout le monde, et on n'avait pas forcément les bénéfices. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ils ont cherché à renouer avec l'Allemagne, d'une part, très habilement, et d'autre part, avec la Russie, notamment d'ailleurs sur les cendres toutes chaudes de l'accident de Katyn. Et donc aujourd'hui, le président Tusk mesure son soutien. Il y a eu un vrai alignement des Polonais sur les Américains concernant la révolution ukrainienne, la pantalonnade de la révolution ukrainienne. Il y a eu cet alignement au moment de la guerre d'Irak. Il y a désynchronisation au moment de la guerre en Libye, c'est-à-dire que très clairement, les Polonais se sont prononcés contre cette hypocrisie des pays d'Europe de l'Ouest à faire la guerre en Libye. Et donc, il y a aujourd'hui une négociation plus raisonnée. Ça tombe bien, puisque Barack Obama ne veut pas heurter son nouvel ami Medvedev avec le bouclier. Et donc là, a priori, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait transplanter une partie de F-16 qui était basée en Italie pour les installer dans une base qui serait à 80 km de la frontière russe. Alors les Russes tout sautent un peu, parce qu'il faudra comprendre qu'est-ce qu'il y a exactement derrière. Et le deuxième sujet, c'est que c'est amusant, parce que on ferait bien de leur envoyer quelques écolos aux Polonais. C'est que là, pour le coup, là où on s'est mis d'accord entre Polonais et Américains, c'est sur l'exploitation à grande échelle de tous les gisements de gaz de schiste, puisque le pays en regorge. Et c'est donc une occasion pour les Polonais de réduire leur dépendance au gaz russe. Donc il y a on pourrait développer, mais je ne vais pas le faire parce que l'heure tourne, mais c'est très intéressant de voir le changement de posture de la Pologne dans cette relation plus mature et plus équilibrée, même s'il y a dépendance, clairement, qu'il y a relais d'influence, mais dans sa relation avec les États-Unis.
Enfin, ce gaz de schiste qui pourrait leur donner une indépendance énergétique vis-à-vis des Russes, à un prix qui risque d'être...
On visite peu la Pologne quand même. On n'y est pas pour tout de suite quand même. Hein. Il est possible que le gisement, l'extraction du gaz de schiste soit totalement optimale le jour où, de toute façon, les réserves de l'or bleu ou de l'or gris se soient taries. Quelques éléments rapidement que j'ai pioché dans l'actualité européenne. Début du mois de mai, on a assisté à la défaite cuisante des libéraux-démocrates britanniques à l'occasion du référendum du mode de scrutin. Alors c'était important parce que c'était essayer de sortir enfin de ce mode de scrutin qui donnait systématiquement la prime aux partis majoritaires. Les Britanniques du Lib Dem en avaient fait une condition sine qua non de leur participation au gouvernement. Ils auront donc tout perdu. Ce référendum a eu lieu, les conservateurs ont tenu leurs promesses, et donc les Lib Dem ont été obligés, eux, de faire un maximum de concessions, notamment sur le plan d'austérité drastique qui rappelle les années Thatcher que Cameron est en train de mettre en place. Deux, ils ont perdu ce référendum, c'est-à-dire que leur représentation à la Chambre des communes et au Parlement n'en sera pas améliorée. Trois, à faire le grand écart, ils ont perdu à peu près 75% de leur mandat aux élections locales, et vous aurez probablement vu, en tout cas je le souhaite, l'éclatante victoire du SNP, le Scottish National Party, qui est donc le parti indépendantiste écossais, soutenu par pléthore de gens brillants, dont Sean Connery, qui fait chavirer le cœur de toutes les dames de ce pays.
C'est un peu vieux hein, quand même. Hein.
Oui, mais on voit toujours les photos d'avant, vous avez vu.
D'accord.
Et donc ce parti, alors au positionnement parfois un peu indéfinissable, mais obtient la majorité absolue au Parlement écossais. Et donc son patron, le très charismatique Alex Salmond, a dit « Je veux demander un référendum sur l'indépendance ». Moyennant quoi, David Cameron lui dit « Oui, vous avez raison, et d'ailleurs on va le faire le plus vite possible ».
puisque comme l'opinion n'en veut pas, on ne va pas, du côté de Londres, donner sa chance à un gouvernement indépendantiste pour faire mûrir tranquillement l'idée. Donc on va le faire tout de suite. Ça apprendra. Enfin, les Écossais devraient savoir que négocier avec des Anglais depuis le 13e, 14e, 15e et 16e siècle, ça se finit toujours de la même chose. On perd. Enfin, derniers éléments. Oui, mais ce sont les réminiscences.
D'accord avec vous,
ce sont les réminiscences de l'Old Alliance. Je vous signale. Nous pourrions faire une émission entière. Lucien Valdès, vous qui nous dégotez les invités les plus prestigieux, voire les plus improbables,
trouver un Écossais
qui vienne nous raconter trois ou quatre siècles d'Old Alliance et de détestation de la couronne britannique. Ça fera du bien, mon ulcère.
Bon, pour les auditeurs,
ça plaira aux auditeurs, mais ça fera du bien.
Cette alliance entre la France et l'Écosse qui date du 15e.
Vous allez voir le chaos politique total en Albanie.
Je vous le dis,
parce que après le Kosovo, oui mon cher, après le Kosovo où les élections présidentielles ont terminé en pantalonnade avec un candidat élu, puis obligé de démissionner parce que mis en examen pour corruption, et ils savent pas comment recommencer, et c'est la fraude à tous les étages. Mais maintenant c'est dans le petit pays, le pays frère ou le pays père qui est l'Albanie. L'Albanie, il avait tous les bonheurs des pays balkaniques. Il a pas de tendance séparatiste sur son territoire. Il a pas de frontières à définir, tout le monde est d'accord. Il n'a pas de criminel de guerre à livrer, puisque ceux qui se sont réfugiés chez lui, de Loucheka, font partie des libérateurs sacro-saints de la patrie, donc personne n'appelle ça des criminels de guerre. Tout le monde s'appelle pas Mladic, tant pis pour lui. Et ils n'ont pas de nom officiel à déterminer, comme la Macédoine, qui doit se bagarrer avec les Grecs pour savoir comment elle va s'appeler. Donc tout devait bien se passer, c'est le satellite absolu des États des Américains dans la région. Eh bien non, c'est le chaos. Les nombres de morts sont considérables dans les manifestations qui ont eu aux élections municipales. Le pays est totalement bipolarisé entre un ancien apparatchik et un apparatchik ancien. Bref, c'est la pétaudière. Et visiblement, il y a quand même des concepts de démocratie qui ont du mal à s'exporter, y compris chez nos amis, chez les amis de nos adversaires américains.
Ils ont un beau drapeau, l'Albanie. Ça, c'est la seule chose que je connaisse. C'est leur drapeau.
Oui, oui.
Autre chose,
oui.
Mon cher Philippe.
Autre chose, je change de petit pays confetti de l'ancienne zone de l'Est. Vous avez dû voir également la profonde crise politique en Lettonie. Non, vous n'avez pas vu non plus.
Non, j'ai pas vu non plus.
Vous roupillez.
Oui, oui, complètement.
Ils voient ça, vous savez.
Oui, oui.
Ils voient l'Albanie, ils voient la Lettonie. Intéressant parce que là aussi, on est... Et je reboucle avec ce que disait Michel Drac, et on pourrait aussi parler de l'Espagne et des fameuses endiñados dont nous cherchons en France à rendre cela cohérent avec les 400 pisseux qui sont réunis
à la Bastille.
Place de la Bastille. Mais oui. Ce qui est intéressant, c'est que en avant-scène ou en symptôme, je ne sais pas, on ne saura dire ça que plus tard, mais il y a un certain nombre de crises politiques profondes et ce sont les pays les plus fragiles qui les expriment. L'Lettonie, c'est très simple. Le président de la République lui-même a dit c'est plus possible. On peut plus rien faire dans ce Parlement tellement il est tenu par les oligarques. Je le dis sous tout. Il dit ça trois jours avant l'élection présidentielle au suffrage indirect. Il devait être réélu par le Parlement. Autant vous dire que je pense qu'il a décidé qu'il allait faire autre chose. Et donc la Lettonie est sans dessus dessous parce qu'évidemment il y a un problème institutionnel. Qui avait ici avait raison de dire ça? Quand est-ce qu'on le fait? C'est un référendum qui a lieu le 30 juillet. Bref, il faut regarder ça parce que ce pays est un pays instable avec le poids de la population russophone, la question des apatrides. C'est un pays qui est en interrogation sur son histoire. On a plusieurs fois parlé de ce qu'il y avait des tendances réformistes du musée de Riga. Donc les touristes intéressants. Et je reboucle effectivement avec l'Espagne parce que tout à l'heure vous aviez posé une question à Michel Drac. Est-ce que la chute du libéralisme est une suite après la chute du communisme? Ce qui est très frappant dans les jeunes espagnols qui sont à Madrid. Je rappelle que 43% des moins de 30 ans sont au chômage en Espagne. Je ne sais pas si on se rend compte, si on peut se rendre compte de ce que ça veut dire. 1 sur 2, pas loin d'un sur 2. Et bien, ce qui est frappant, c'est qu'au-delà des focus des médias sur ceux qui défendent les Sahraouis, ceux qui défendent les féministes, ceux qui défendent... C'est un mouvement profond. Alors, il est sympathique, il est un peu prépubère sur le thème « on veut changer, mais on ne sait pas quoi faire ». Mais d'abord, il est fortement désidéologisé. Et deuxièmement, il place clairement à égalité de responsabilité la droite et la gauche, les libéraux, les sociaux. Et donc, la critique, elle est très claire. Ces gens-là ne sont pas dupes du fait que c'est le même système avec des facettes de représentation différentes qui se présentent devant eux. Ça ne suffit pas pour en tirer des leçons très fortes, ça ne suffit pas pour des amorces de solutions, mais ça se rapproche quand même. Ça se rapproche quand même et il y a là effectivement des tressaillements, des tressautements dans la cotte de maille qu'on veut nous faire enfiler de force.
Une dernière petite nouvelle rapide.
Rapide pour vous dire que parce que ça j'ai quand même trouvé ça rigolo. Je ne sais pas si c'est vrai, mais au G8 de Deauville, Sarkozy et Medvedev ont signé une autre coopération qui est de faire venir des entrepreneurs et des industries françaises patronnées par la Caisse des dépôts dans le Caucase du Nord pour aménager tous les équipements touristiques liés au ski.
Ah oui.
On pense évidemment à Sochi, les Jeux Olympiques de 2014, mais l'idée c'est d'investir en Ossétie du Nord, au Daghestan, en Tcherkessie, donc en gros tous les endroits qui nous sont décrits comme totalement des coupes-gorges. Le contrat est totalement intéressant, hein. On parle de 15 milliards d'euros, il pourrait doubler. On a des stations de ski avec des gens qui en permanence se plaignent, il n'y a pas assez de neige, il y a trop de neige, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Ben voilà un bon débouché pour notre commerce extérieur. Et avec, comme toujours à la française, de l'économie, mais également un petit peu de normatif, puisque ce qu'on va exporter aussi, c'est le modèle qui a fait ses preuves en termes de protection de l'environnement, avec les lois montagne et les lois littorales, qui sont plutôt de bons exemples de ce qu'on peut faire de bien pour protéger un patrimoine naturel. En France, on fait pas tout mal quand même.
Merci Philippe. J'ai quelques secondes pour vous dire que Figure de proue numéro 3 vient de sortir. Il y a un texte magnifique de Jean Mabir qui date de je ne sais plus quand, mais je peux vous assurer qu'il faut l'acheter. C'est le numéro 3 de Figure de proue. Et nos amis aussi de Livre Arbitre, leur numéro 5 avec un entretien avec Sylvain Tesson. Il y a plein de gens connus de Radio Courtoisie qui écrivent dedans. C'est très bien. Et bien sûr, le numéro de Crisis que je vous ai présenté tout à l'heure, le chaos numéro 35 avec le texte de Michel Drac sur la monnaie.
Et une minute de solidarité, on vient d'apprendre que demain, le fils de Laurent Fabius, Thomas Fabius, allait passer en jugement parce qu'il est prévenu d'escroquerie dans 4 chefs d'inculpation différents.
Vous salissez toute l'émission, c'est la seule émission des chroniques de la vieille Europe qui ne parle pas de DSK, qui ne parle pas de la guerre en Libye, mais qui parle de l'Albanie. Nous nous retrouverons dans 4 semaines. D'ici là, vous pourrez retrouver notre émission sur le site vieilleeurope.fr ou la réécouter jeudi soir. Bonne soirée à tous sur Radio Courtoisie. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.